Primus, on avait commencé déjà la dernière fois, on va le poursuivre. Et on va voir que souvent dans le monde évangélique, le pire peut côtoyer le meilleur. Et l'histoire du réveil de Plymouth est là pour nous montrer que il y a dans le monde évangélique des failles auxquelles il faut être extrêmement attentif. Des ornières dans lesquelles il convient d'éviter de tomber. Et hélas, bien souvent, ce sont des ornières dans lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, nombre d'évangéliques tombent. Nous avons vu ce réveil qui avait éclaté donc d'abord en Irlande, puis qui s'était répandu ensuite à Plymouth, d'où justement le nom de frère de Plymouth qui avait été donné à ce mouvement. À la tête enfin, parmi les principaux responsables, les principaux leaders de ce mouvement se trouvait John Nelson Darby, qui était au départ un prêtre anglican et qui gardera d'ailleurs celui qui est extrêmement ferme sur la Bible, sur l'autorité de la Bible, jusqu'à son dernier souffle, continuera à baptiser les enfants, ce qui est un paradoxe assez étonnant. Mais enfin, il a gardé ça certainement de son background anglican. Et donc, nous avons vu la dernière fois que Darby avait fondé ce qu'on appelle le dispensationalisme, c'est-à-dire la manière, différentes manières dont Dieu se comporte vis-à-vis de l'humanité. Et sa théorie, si vous voulez, c'est que chacune des dispensations se termine par un échec, non pas du côté de Dieu, bien sûr, mais du côté de l'homme. La dernière dispensation qui était donc en cours était la dispensation de l'Église. Et comme toutes les autres dispensations, pour Darby, la dispensation de l'Église échoue aussi. Et de son temps, c'est-à-dire au XIXe siècle, il affirme que le temps de l'Église est fini, que d'ailleurs l'Église est en ruine, et qu'il est vain de vouloir essayer de la reconstruire, puisque Dieu ne reconstruit pas, ne restaure pas les choses dans leur premier état. Par conséquent, il convient de sortir des églises, de toutes les églises, pour se rassembler de manière informelle. Voyez-vous, c'était une théorie qui était appelée un grand avenir, notamment dans notre siècle. C'est la théorie de bien et bien des chrétiens aujourd'hui. Et ce d'autant que précisément ce qu'on appelle aujourd'hui Église n'est pas l'Église. Par conséquent, il est loisible, il est légitime, il est normal de s'en séparer. Et il y a ici de la part de Darby quelque chose de très très néfaste. Darby pousse à son paroxysme, comment dirais-je, la relativisation de la notion d'Église, qui a commencé avec les réformateurs, il faut bien le reconnaître. Et les réformateurs n'ont jamais réussi à formuler une ecclésiologie qui soit véritablement valable, biblique, ça. Et le propre du protestantisme, une de ses graves lacunes, c'est justement qu'il a perdu la notion d'Église universelle notamment. Et Darby pousse cette relativisation à son paroxysme jusqu'à nier même la notion d'Église. Il y a donc ici une exaspération de l'individualisme et un autre aspect aussi qui est la sanctification de la rupture. La rupture a toujours été considérée comme quelque chose de négatif. Parce que finalement, l'Église est appelée à être une dans sa vocation, c'est clair. Il y a une seule Église, dira l'apôtre Paul. Et l'on sait avec quel scrupule Luther s'est résolu en fin de compte à rompre avec l'Église romaine, tout en espérant qu'il ne s'agirait là que d'une parenthèse et que l'unité redeviendrait possible. Et par conséquent, ici, la rupture pour Luther, pour les réformateurs, était un pis-aller, un moindre mal, mais sûrement pas un bien. Avec Darby, la rupture devient quelque chose de naturel, de normal, d'anodin, de banal. Pour le moins, il y a une banalisation de la rupture. Et ce qui est semé là va porter ses fruits, n'est-ce pas, notamment dans notre siècle, dans le monde évangélique, où il va y avoir rupture pour un oui ou pour un non, où l'individualisme va faire que des petits groupes se créent, ou pas de groupe du tout, où chacun peut être chrétien chez lui, etc. Eh bien ça, justement, c'est quelque chose qui nous vient essentiellement de ce réveil de Plymouth, ou plus exactement de Derby. Ce n'est pas quelque chose qui est accepté par tous les frères. Et notamment, des gens vont se dresser contre cette doctrine. Et notamment aussi, pour cette raison, Derby va quitter l'Angleterre et va venir s'installer en Suisse. La Suisse, qui est encore dans la mouvance du réveil, qui avait éclaté dans les premières années du siècle, comme nous l'avons vu, et qui par conséquent reçoit Derby comme un homme de Dieu, comme un envoyé de Dieu. Et là, il va surtout être reçu par des disciples de Zinzendorf, qui restent en Suisse, et qui l'accueillent, et qui espèrent ainsi que le réveil va connaître un nouvel élan. Mais lorsque Derby prêche, en quelque sorte, cette sanctification de la rupture, un certain nombre de pasteurs suisses qui l'ont suivi jusque maintenant vont se séparer de lui. Notamment, c'est le cas d'Auguste Rocha, qui n'accepte pas l'idée, n'est-ce pas, que l'Église a fait faillite, etc. Or, justement, Derby réplique en disant que ce qui importe, c'est d'abord la Bible. Bon, il a raison, c'est vrai. Et que les questions d'Église sont secondaires. Et que ce qui est important, c'est la foi dans la Bible. Par conséquent, chacun peut être chrétien tout seul avec sa Bible. Voilà, en poussant à l'extrême, voilà où arrivent les théories de Derby. Et Rocha réplique que si on suit les raisonnements de Derby, à savoir que Dieu ne reconstruit pas ce qui a été détruit, alors une grande partie du Nouveau Testament est inapplicable aujourd'hui. Et que par conséquent, la Bible elle-même est vidée de sa substance, ce qui est une réflexion de bon sens. Si bien que l'arrivée de Derby, le séjour de Derby en Suisse romande, va provoquer des tensions, des divisions au sein justement du réveil. Des gens vont adopter les vues de Derbyste, d'autres vont s'y opposer. Et finalement, même s'il apporte un nouveau souffle, c'est vrai aussi, Derby apporte ce souffle-là, il provoque des problèmes. Et vont donc se créer deux grands groupes de frères, ceux qui restent fidèles à Derby et qui vont être qualifiés de frères étroits, par opposition à ceux qui se séparent de lui, qui diffèrent de lui, et qui vont prendre le nom de frères larges. Enfin, les frères étroits sont encore appelés darbistes. Bon. De Suisse romande, Derby va passer en France, et il va notamment publier une traduction de la Bible en français qu'il veut fidèle aux textes originaux. C'est un érudit et il fait un travail très très sérieux à ce niveau-là. Malheureusement, il y a deux grands reproches qu'on peut faire à son travail. Le premier, c'est que quand même le français n'était pas tout à fait sa langue maternelle. Il le possédait bien, mais c'était pas sa langue maternelle. Et il est certain que sa traduction, ça se ressent dans sa traduction, c'est pas, on sent que il n'a pas la maîtrise, n'est pas, de la langue qui ferait que cette langue pourrait quand même être une langue relativement élégante, n'est-ce pas. Et puis deuxièmement, il colle, comme il est très littéraliste, n'est-ce pas, il colle au texte. Bon, ça n'est pas sans intérêt, c'est sûr, mais il est certain qu'il colle au texte tellement que parfois le texte devient obscur et difficilement compréhensible. Alors, la version Derby, qui de toute façon maintenant est complètement dépassée au point de vue langue, ça c'est un fait certain, parce qu'elle est vieille quand même. continue à être en quelque sorte la Bible avec un grand B, presque équivalent, n'est-ce pas, des textes originaux pour un certain nombre de gens, pour les églises d'arbistes en particulier, n'est-ce pas, pour les assemblées d'arbistes, pas des églises, les assemblées d'arbistes, n'est-ce pas. D'ailleurs, c'est assez grotesque parce que le mot église et assemblée, ça veut dire exactement la même chose. Enfin bon, Darby ne voulait absolument pas employer le mot église. Bien. Et alors, n'est-ce pas, dans ces assemblées d'arbistes, c'est toujours, on lit la Bible dans la version d'arbistes et dans certains milieux évangéliques aussi. Personnellement, je suis beaucoup plus réservé vis-à-vis de ce travail-là, n'est-ce pas, c'est certain. Et donc, de France, il va passer en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Italie, n'est-ce pas, pour y prêcher sa doctrine. Et c'est alors que des problèmes vont naître directement en Angleterre, et en particulier en 1842, va commencer alors le grand schisme qui va séparer justement les frères à partir justement de Darby lui-même. Et là, il y a un dentiste qui est un responsable des assemblées de la région de Bristol en particulier, qui va se séparer de Darby parce qu'il trouve Darby trop autoritaire. Et finalement, Darby est un homme qui s'attache plus à ses interprétations qu'à la Bible lui-même. Il met en quelque sorte sur le même plan la Bible et les interprétations qu'il en donne lui. Il s'érige en quelque sorte comme un magistère autorisé, et tous ceux qui diffèrent de lui sur l'interprétation qu'il donne à l'Écriture sont donc des hérétiques, sont donc des gens qu'il faut excommunier. Alors, il excommunie des individus, il excommunie des assemblées entières si ces assemblées continuent à recevoir les enseignements de ces individus qu'il a excommuniés. Et puis, il exige, n'est-ce pas, que toutes les autres assemblées rompent avec les assemblées qui ont été excommuniées. Et si elles refusent de le faire, alors il les excommunie à leur tour. Si bien que finalement, Darby reste à la fin de sa vie avec un tout petit nombre d'assemblées autour de lui, parce que la plupart des assemblées de frères ont ressenti son joug comme tellement insupportable qu'en fin de compte, elles ont rompu avec Darby. Alors, la sanctification de la rupture, c'est pas cohérent avec son système, finalement, n'est-ce pas ? Puisqu'on est libre de quitter les assemblées, etc. Et puis, finalement, il nie cette liberté. Alors, il recrée une église infiniment plus coercitive, qui, en principe, ne l'est pas, mais qui, dans les faits, l'est. Enfin, c'est assez incohérent, quoi. C'est assez incohérent. Mais ce qui est dramatique, c'est que l'esprit, justement, de Darby, à mesure où Darby a eu beaucoup de... C'est un homme qui avait une très très forte personnalité, une très très grande influence, n'est-ce pas ? Bon, même des gens qui se sont séparés de Darby ont été marqués par lui. Même des assemblées qui ont pris des distances vis-à-vis de lui ont été marquées par lui, ont été marquées par sa vision, ont été marquées par le dispensationalisme qui était le sien. Par exemple, Darby a été le premier... qui est formulé à partir d'ailleurs de textes anciens des pères de l'Église, notamment, c'est pas d'interprétation des pères de l'Église, qui a fait un système eschatologique à peu près cohérent pour les milieux évangéliques. L'histoire, vous savez, des 70 semaines, la dernière semaine de 7 ans, qui est rompue par l'Antichrist au milieu de la semaine, etc. Enfin bon, il y a toutes ces choses qu'on trouve à peu près dans tous les milieux évangéliques aujourd'hui, ça vient d'Arby. Ça vient d'Arby. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en milieu évangélique, on n'a pas remis en cause fondamentalement le système eschatologique de Darby. Alors que peut-être qu'après tout, on ne peut pas être sûr qu'il soit absolument juste. En tout cas, c'est ma pensée. Et personnellement, je prends beaucoup de distance vis-à-vis du système eschatologique. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler quand en doctrine, on fera l'eschatologie. Mais ça, c'est quelque chose qui nous vient de Darby. Et Darby a marqué le monde évangélique et continue à marquer une partie du monde évangélique jusqu'à nos jours. Pas toujours pour le mieux, justement. Et notamment, cette, cette relativisation de l'Église, qu'on trouve aujourd'hui encore dans bien des milieux évangéliques, est la conséquence peu ou prou justement de Darby. Et ça, à ce niveau-là, il nous a rendu un très 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 mauvais service. Alors, Darby s'est trouvé en confrontation avec, donc je disais tout à l'heure, la fameuse rupture de Bristol, ça on va en parler maintenant si vous voulez, qui tourne autour de deux hommes essentiellement, Craig et son gendre George Muller. George Muller qui, au demeurant, sera un grand homme de Dieu. Et ça nous amène à parler un peu plus longuement de George Muller. George Muller est né le 25 septembre 1805 en Prusse, donc c'était d'origine allemande. Et très jeune, il s'est révélé comme un très très mauvais sujet, c'est pas un jeune garnement qui avait toutes les raisons de très très mal tourner. Il a été, son père, sa famille n'était pas du tout chrétienne, pas du tout religieuse. Son père était marqué par l'esprit du temps, des lumières, etc., etc. Et très vite, le jeune Georges s'est mis à vivre comme un parfait voyou. Il allait jusqu'à voler son propre père, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et donc, il était très très mal parti. À l'âge de 15 ans, il a fait des études classiques et bien que son père n'était pas du tout religieux, il a voulu que son fils Georges donc devienne pasteur. Ça lui permettrait d'avoir une belle situation. C'était voilà comment le père voyait les choses. C'est vrai qu'à l'époque en Allemagne, pasteur c'était un certain standard, n'est-ce pas ? Et c'était ça que voyait le père. Alors il a poussé son fils à entreprendre des études de théologie. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et c'est ainsi que Georges a commencé des études de théologie, tout en s'enfonçant de plus en plus dans le mal. Il vivait une vie de débauche totale, et donc était de plus en plus en porte-à-faux avec ce qu'il apprenait. Bon, à la longue, quand même, cette double vie qu'il menait a fini par lui peser, et à Pâques 1820, il a pris la décision de changer, d'être un peu plus cohérent avec la théologie qu'il a étudiée. Seulement, son problème, c'est qu'il n'avait pas fait de rencontre avec Dieu véritable, n'était pas véritablement passé par la conversion, et il comptait plus sur les efforts humains que sur la grâce de Dieu pour se changer, pour s'amender. Tant et si bien que ses résolutions, bien sûr, n'ont été qu'un feu de paille, et très vite, il est retombé dans les anciennes ornières, il allait avec des mauvais copains dans des cafés, dans des tripots, dans des lieux malfamés de ce type-là. Et ça allait de mal en pis. En juillet 1801, il a changé d'institution, il est entré au collège de Magdebourg, et là, il s'enfonçait de plus en plus dans le péché. Il continuait à voler son propre père. C'est ainsi, par exemple, qu'un beau jour, il a décidé d'aller passer un temps dans un hôtel de luxe. Alors, il s'est installé dans un hôtel de luxe, sans un sou, il n'avait pas un sou devant lui pour le faire, et quand il a estimé qu'il avait passé assez longtemps dans cet hôtel, il est parti sans rien dire au patron de l'hôtel, qui pensait qu'il était simplement sorti faire un tour, puis plus revenu. Il n'avait pas payé sa note ni rien, c'est pas une note qui comptait, donc qui était assez faramineuse, parce que l'hôtel étant un hôtel de luxe, les notes étaient aussi importantes, et comme il avait passé pas mal de temps, il avait une note importante. Alors évidemment, l'hôtelier l'a fait poursuivre par la police, on a fini par le retrouver, et le 16 décembre de 1825, il a été condamné à 2 mois de prison pour avoir vécu sans argent dans un hôtel. Et puis, on a envoyé la note à son père qui a dû payer la note en question. Ça ne l'a pas beaucoup dérangé. Il a continué sa vie de péché, tout en continuant à travailler avec acharnement, d'ailleurs, étudier la Bible, étudier la théologie. C'était vraiment étonnant de sa part. Et puis, petit à petit, il a commencé à s'intéresser à la Bible. La Bible a commencé à lui parler, a commencé à être quelque chose auquel il a pris un intérêt plus que simplement pour passer ses examens, mais en lui-même, il avait un intérêt pour la Bible. Ce qui n'empêchait pas de continuer à être totalement malhonnête. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à l'université de Halle, donc l'université d'où était sorti le réveil morave, d'où il a obtenu un diplôme qui lui a donné le droit de prêcher dans l'église luthérienne. Bon, à cette époque-là, l'université de Halle, évidemment, avait perdu beaucoup de son punch qu'elle avait du temps du réveil morave. Mais il en restait quand même quelque chose. Et à son insu, Georges Müller était plus ou moins influencé par ce qu'il y avait là. Et donc, après avoir eu son diplôme en poche, il est parti en voyage. Il avait envie de voir du pays. Et en août 1825, il est allé passer 45 jours en Suisse, environ. Et c'est là, justement, que le Seigneur l'attendait. En novembre 1825, un de ses amis suisses, qui se nommait Bêta, l'a emmené à une réunion de réveil. Et là, pour la première fois de sa vie, Georges Müller a été impressionné par l'intensité des prières qui montaient vers Dieu. Jamais il n'avait entendu prier de cette manière. C'est pas la prédication qui l'a impressionné, parce que les prédications, il en avait entendu des centaines et des centaines. Il était lui-même capable d'en faire. Mais ce qui l'a impressionné, c'est la qualité des prières qui sont montées vers Dieu dans cette fameuse soirée. Et ce soir-là, il a pris la décision de changer de vie. Il a été en quelque sorte convaincu de péché, se rendant compte qu'il vivait une vie double, une vie absolument malhonnête, et il a décidé de s'amender à nouveau. Et là, quelque chose a changé dans sa vie, a commencé à changer. Notamment, il a cessé de fréquenter les mauvais lieux. Il a cessé de mentir, alors que pour lui c'était quelque chose d'habituel. Et il a commencé à s'intéresser aux choses de Dieu. Mais il n'y avait pas encore, si vous voulez, de conversion véritable. C'était plus encore des efforts humains qu'une véritable rencontre avec Dieu, même si quelque chose commençait à se faire, l'œuvre de la grâce commençait à se faire dans son cœur. En janvier 1826, il a eu sous les yeux des journaux missionnaires. Et il a été très impressionné par la consécration des missionnaires qui travaillaient en terre lointaine. Et il a eu dans le cœur le désir de devenir missionnaire. Hélas, ça n'a pas duré longtemps. Le diable, lui a mis une peau de banane, si j'ose dire, en la personne d'une jeune fille dont il s'est épris. Et cette jeune fille était une jeune fille superficiellement christianisée, disons, qui faisait profession de christianisme, mais qui n'avait pas fait de rencontre véritable avec le Seigneur. Et dès qu'elle a entendu parler de mission, de consécration à Dieu, elle a poussé des hauts cris, n'est-ce pas? Et elle a réussi donc à faire en sorte que Georges Müller renonce à ses projets. Projets d'ailleurs dont on peut se demander jusqu'à quel point ils étaient véritablement profonds, si c'était pas quelque chose d'un peu idéaliste, n'est-ce pas? Bon, il y a eu aussi le père de la jeune fille qui a fait tout son possible pour s'opposer à l'appel missionnaire, enfin entre guillemets, de son futur gendre, n'est-ce pas? Et puis, chose tout à fait intéressante, Georges Müller, qui n'était pas véritablement encore converti à cette époque-là, jouait aussi à la loterie. Ça montre le degré où il était. Et puis, il a gagné quelques petites sommes, par le plus grand des hasards, à la loterie. Et alors, il y a vu une bénédiction de Dieu, une confirmation de Dieu, et il a décidé de passer outre à l'opposition de sa fiancée et de son beau-père. Et donc, il a posé sa candidature à la Société missionnaire de Berlin, qui l'a refusée. L'a refusée au bout d'un temps. Certainement qu'ils l'ont jaugé, puis qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même quelque chose d'un peu superficiel. Alors, ça a été quand même pour lui un coup dur à son orgueil, et aussi une occasion de se remettre vraiment en question. Ça a été aussi un moyen par lequel Dieu s'est servi pour l'amener à lui d'une manière plus profonde. Alors Georges Müller s'est mis tout simplement, il dit « Seigneur, je veux te servir là où je suis, je vais devenir missionnaire où je suis ». Et il a pris des tracts, et puis il a commencé à distribuer des tracts autour de lui, de la littérature biblique, faire un travail très humble de colporteur. Et en même temps, il était en principe pasteur officiel dans l'église luthérienne, tant et si bien que le 27 août 1826, il préparait une prédication. Une prédication, et là, pour il a dit, Seigneur, Je veux que ce soit vraiment quelque chose qui vienne de toi, pas simplement une parole qui soit une parole banale, mais une parole qui vienne de ta bouche. Il a cherché Dieu de tout son cœur. Et le Seigneur lui a donné un thème de prédication. Il a vraiment senti que c'est quelque chose qui venait de Dieu. Et c'était le texte des Béatitudes, heureux les pauvres. Il a prêché ce texte le lendemain. Peu de résultats. Et il a été fort déçu parce que précisément, il avait l'impression que c'était quelque chose qui lui était donné par Dieu. Il est donc retourné à Halle. Et là-bas, il a, en août 1827, il a à nouveau essayé d'entrer dans une société missionnaire. En particulier, il a demandé à partir pour Bucarest, qui était en Roumanie, donc une région peu évangélisée. Ça semblait se présenter pas trop mal cette fois-ci, si ce n'est qu'entre-temps, la guerre a éclaté là-bas, dans les Balkans, et la société missionnaire en question a refusé de l'envoyer là-bas, dans un endroit qui était menacé. Alors, Georges Müller a décidé qu'il deviendrait missionnaire parmi les Juifs. Et il a un peu tâté à tout. Et il est parti pour se former à Londres, à Berlin, puis à Londres, n'est-ce pas? Il a quitté, en février 1829, il a quitté Berlin pour Londres, pour se former justement à la mission parmi les Juifs. Il est arrivé le 19 mars, et là, il a commencé à étudier. Il a étudié l'hébreu, le yiddish, et puis il est tombé malade. On l'a envoyé se reposer, et là, il a rencontré un jeune chrétien, à peu près de son âge, qui se nommait Henri Craig. Et c'est lui qui était au contact, justement, du réveil de Plymouth. Là, le Craig l'a initié à l'idée que le Seigneur revenait, du retour de Jésus. C'était quelque chose que les frères de Plymouth avaient découvert. Donc, à partir de là, Darby, comme on le sait, avait établi sa doctrine. Et ça a été pour lui une découverte, n'est-ce pas, que Jésus revenait. Et là, il s'est approché d'une manière beaucoup plus profonde de Dieu. Il a commencé à évangéliser les Juifs de Londres, puis au bout d'un temps, il s'est séparé de la société missionnaire qui l'avait embauché, et il s'est mis à prêcher dans la ville d'Aix-Marsh. Et entre-temps, il avait vraiment rencontré le Seigneur. Au contact, justement, du réveil de Plymouth, là, il avait vraiment, vraiment donné sa vie au Seigneur à fond. Et quand est venu pour lui le moment, ayant terminé ses études, d'être ordonné, non ordonné par l'Église luthérienne en principe, puisqu'il était toujours officiellement luthérien, il devait donc quitter Londres pour revenir en Allemagne et être ordonné dans l'Église allemande. Et finalement, après avoir prié, après avoir cherché la face de Dieu, il a refusé cette ordination. Il a refusé de servir dans l'Église luthérienne parce que cette Église était une Église nationale peuplée d'inconvertis. Et par conséquent, il se sentait en porte-à-faux au milieu d'elle. Au lieu de cela, il est entré dans une église qu'on appelait à cette époque-là les églises libres, c'est-à-dire non rattachées à l'État, où il y avait 18 personnes, une petite paroisse, une petite assemblée, où il y avait 18 personnes en tout et pour tout. Et c'est ainsi qu'un beau matin de 1830, trois sœurs, membres de cette église, sont venues discuter avec lui au sujet du baptême. Elles avaient des jeunes enfants et se posaient la question de la validité du baptême d'enfants. Pour Georges Müller, le baptême des enfants était une évidence. Il avait été élevé là-dedans, l'église luthérienne, bien sûr. Et il s'est mis à défendre avec véhémence le baptême des enfants, exhortant ses sœurs à faire baptiser leurs enfants. Et finalement, les sœurs qui étaient beaucoup plus frustres que lui, en théologie, bien entendu, ont fait valoir des arguments bibliques qui ont fini par troubler Georges Müller. Georges Müller, qui avait appris justement à se remettre en question par les expériences qu'il avait faites, s'est posé la question ce soir-là, mais est-ce que Dieu voudrait me parler, est-ce que Dieu voudrait me dire quelque chose? Il a repris la Bible, il a repris les textes, et il est arrivé à une conviction que le baptême des enfants n'était pas biblique, mais que le seul véritable baptême était le baptême des adultes. Et c'est ainsi que il a demandé à être baptisé. Il a été donc baptisé peu après. Et puis, donc, il a institué à partir de cela le baptême des adultes dans la petite église dont il avait la responsabilité. Ainsi d'ailleurs que quelque chose qui était tout à fait nouveau aussi dans les églises protestantes à cette époque-là, la Sainte-Seine tous les dimanches. En général, dans les églises protestantes, on suivait ce qui avait été de mise à l'époque des réformateurs, ça veut dire qu'on prenait la Sainte-Seine. Calvin ne donnait pas la Sainte-Seine plus de 4 fois par an, Luther un peu plus, et bon, dans d'autres églises, on avait pris l'habitude à donner un peu plus souvent, mais ce n'était pas quelque chose qui était régulier tous les dimanches. Et c'est ainsi que, à partir d'Aix-Mars, il s'est rendu à Exeter, à la fin de 1829, où il a pris pension chez un dentiste. Et là, ce dentiste avait une fille, ça, et qui était à la fois peintre et musicienne. C'était une personne qui avait des talents importants à ce niveau-là. Et il est de tomber amoureux de cette jeune fille. À cette époque-là, il était sans le sou pratiquement parce qu'il y avait une toute petite église. Et il vivait, comme ça se faisait beaucoup en Angleterre à cette époque-là, on louait les bancs pour venir écouter l'évangile, et c'était ainsi que le traitement du pasteur était payé. Et George Müller n'était pas très très à l'aise avec cette coutume. Il trouvait que c'était une manière détournée de faire payer les gens pour écouter l'évangile, alors que l'évangile est quelque chose de gratuit. Alors c'est pareil, il a cherché Dieu, comme il avait fait pour le baptême. Il dit « Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Parce que finalement, c'était son seul revenu. S'il supprimait cette coutume de faire payer les bancs au culte, eh bien, il se retrouvait sans rien, sans aucune source de revenu. Et au bout de quelques jours d'études, de recherches, de prières, etc., il arrive à la conclusion que c'était contraire à la parole de Dieu que de faire ainsi payer les bancs. Alors, il est allé par la foi. C'était le début de la vie de foi de George Müller, n'est-ce pas ? Le dimanche suivant, il a annoncé que plus personne ne serait amené à payer pour venir louer des bancs, n'est-ce pas ? Mais que si quelqu'un voulait, par contre, volontairement mettre un don, ben, il pouvait le faire. Donc il a remplacé cela par des offrandes volontaires. Et ça a été pour lui les premières expériences qu'il a faites dans sa vie de la fidélité de Dieu. George Müller avait aussi adopté un principe tout à fait intéressant sur le plan de l'argent, c'était de payer comptant. Il avait lu dans la Bible que un chrétien ne devait rien devoir à personne, comme dit l'apôtre Paul, si ce n'est de s'aimer les uns les autres. Et il avait donc adopté ce principe dans sa vie, de ne jamais avoir la moindre dette, de ne jamais avoir de devoir le moindre sou à personne, mais de payer immédiatement comptant, n'est-ce pas, pour pouvoir être fidèle à l'ordre de Dieu dans ce domaine-là. À cette époque-là, donc, George Müller vivait quand même très très chichement. Il avait la grâce de Dieu, c'est vrai, mais il vivait très chichement et donc très simplement, tant et si bien que au bout d'un temps, il tombait malade. C'est pareil, il n'avait pas d'argent pour payer le médecin. À cette époque-là, il n'y avait pas de sécurité sociale. Et alors, George Müller a prié. Il dit, Seigneur, il a lu aussi que dans la Bible, le Seigneur était puissant pour guérir les malades. Il dit, si tu as besoin de moi, si tu m'appelles à ton service, guéris-moi. Et il a fait l'expérience de la guérison par la foi. Et George Müller s'est dit que si le Seigneur avait pu le guérir, lui, en réponse à la prière de la foi, pourquoi ne prierait-il pas pour les malades, pour que les malades soient guéris? Et George Müller, bien avant le réveil de Pentecôte, a été un des premiers évangéliques à exercer le ministère de la guérison par la foi, sans, au demeurant d'ailleurs, connaître l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, ni la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit. Que l'on sache, il n'a jamais fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, mais par contre, l'expérience de la guérison par la foi, sa vie. Nombre de malades ont été guéris à la suite de la prière de George Müller, et George Müller, donc, s'est beaucoup attaché à étudier bibliquement ce qu'était la foi. Il s'est rendu compte que pour la guérison, notamment, la Bible parlait de la prière de la foi. Et George Müller a été amené à faire une différence entre la grâce de la foi qui est basée sur la Bible, ça veut dire Je lis dans la Bible qu'il y a un certain nombre de promesses. Par exemple, que celui qui se repent, qui croit en Jésus, reçoit le pardon de ses péchés. Et par conséquent, j'accepte ce témoignage de la Bible, je le crois. Je lis que le Seigneur pourvoit aux besoins des siens, qu'il ne laissera manquer besoin de aucun de ses enfants de rien. Je prie, Seigneur, envoie-moi ce dont j'ai besoin. C'est la foi. La foi au premier stade, la grâce de la foi, ce qu'il appelle la grâce de la foi. Puis ensuite, il y a ce qu'il appelle le don de foi. Et le don de foi, dit Georges Müller, c'est une foi particulière que Dieu donne dans des circonstances spéciales, et notamment face à des cas qui ne sont pas, par rapport auxquels je n'ai pas la réponse dans la Bible. Et notamment, justement, dans le domaine de la guérison, Georges Müller disait, bon, ben voilà, on se trouve devant un malade, Dieu veut-il le guérir ou non ? Parce que s'il est vrai qu'il y a des promesses absolument universelles pour, par exemple, le pardon des péchés, quand quelqu'un se repent de ses péchés, nous n'avons pas besoin d'une révélation spéciale pour savoir que Dieu va lui pardonner. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Donc là, c'est universel. Pour la guérison, dit Georges Müller, il en va autrement. Dieu guérit ou ne guérit pas. Enfin, c'était une expérience qu'il avait faite. Ça a été contesté par les pentecôtistes, mais je pense quand même que Georges Müller était plus dans le vrai que ceux qui pensent que la guérison est pour tout le monde, n'est-ce pas ? Alors il dit là, quand on prie pour les malades, c'était son expérience, eh bien, il y a des moments où il sentait une foi spéciale. Il dit, il sentait que ce malade allait être guéri. Il avait la foi pour prier pour lui, et le malade était guéri. Et il y avait d'autres circonstances où il avait beau prier de tout son cœur, mais il sentait rien, quoi. Il n'y avait pas de foi qui venait et le malade n'était pas guéri. Et c'est ainsi que Georges Müller a appris à faire l'expérience du don de foi, non seulement dans le domaine de la guérison, mais également dans d'autres domaines, et notamment justement, on verra dans la suite du temps, n'est-ce pas, la suite de la vie de Georges Müller, les expériences qu'il a faites pour ses orphelinats, eh bien, relevaient souvent énormément du don de foi, justement de ce qu'il appelle le don de foi, qui est un petit peu une espèce de révélation. Et c'est ainsi que Georges Müller, qui avait appris à compter sur la direction de Dieu, il ne faisait rien sans prier, Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ceci dans les choses petites ou grandes. C'était un homme qui très vite, n'est-ce pas, dans cette rue d'école qu'il va avoir à Londres, ou en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre au début, n'est-ce pas, eh bien, va apprendre à s'en remettre à Dieu pour les choses petites et grandes de son existence. Et c'est ainsi que le 8 avril 1833, soudain, il a le vif sentiment qu'il a terminé son temps là où il est et que le Seigneur le veut ailleurs. Et c'est alors que le 13 avril, il reçoit un appel du frère Craig, n'est-ce pas, de venir le seconder à Bristol. Craig se trouve à Bristol et il reçoit une lettre lui demandant, voilà, le travail ici progresse, avance, j'aurais besoin d'un aide, est-ce que tu ne veux pas venir me rejoindre ? Et c'est ainsi qu'il se rend à Bristol, il retrouve la fille de Craig qu'il va épouser, n'est-ce pas ? Et le 15 août, avec son beau-père, qui est dentiste de son état, il crée une assemblée de frères dans la ligne du réveil de Plymouth, qui donc est une assemblée qui en principe n'est pas église, qui n'a ni règlement, ni programme, ni pasteur, qui est un groupe informel. En août de la même année, une terrible épidémie de choléra s'abat sur la région de Bristol. Et Georges Müller se dépense sans compter pour aider les malades avec son beau-père et sa femme. Et le 17 septembre, d'ailleurs, il lui naîtra une fille. Et à partir de là, beaucoup de familles sont décimées par l'épidémie de choléra et ils se retrouvent avec des enfants. Des enfants qui ont perdu leurs parents. Leurs parents sont morts dans l'épidémie. Et voilà, il y a des enfants, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Ça va être le point de départ, justement, de l'œuvre des orphelinats. Alors, son premier désir, c'est de... Bon, il n'a pas les moyens pour créer d'orphelinats. Il ne pense pas encore à le faire à cette époque-là. Mais il se sent concerné par ses enfants. Lui-même, donc, a un enfant Il est très sensible à la misère des enfants. Bon, l'année suivante, un fils lui naît, qui se nomme Élie, et il a à cœur. Son première idée, c'est de dire, bon, ben, ces enfants qui sont recueillis par différentes institutions qui existent à cette époque-là, orphelinat et autres, mais il se rend compte que c'est des enfants qui sont sans avenir. Alors, sa première idée, c'est de créer une école pour eux. Une école pour qu'au moins, ils aient toutes leurs chances comme des enfants qui auraient leurs parents, en quelque sorte. Et dans le même temps, il tombe sur un livre qui évoque la vie de Franck, le créateur de l'université de Halle, dans laquelle il a étudié dans sa jeunesse. Et là, il se rend compte que Franck, parmi la vision qui était la sienne, a aussi créé des orphelinats à la Halle. Et la lecture de ce livre va être en quelque sorte une parole de Dieu. Et il est interpellé, non pas tant par l'ensemble du travail de Franck, qui allait bien au-delà, justement, de la question des orphelinats, mais il va être interpellé par cet aspect particulier du travail de Franck, l'œuvre des orphelinats. Et là, Georges Müller se trouve devant un problème. C'est bien gentil d'y créer des orphelinats, mais comment faire? La réponse est claire, par la foi. Alors, c'est pareil, il se met à prier, à étudier la parole de Dieu, pour voir si la chose est possible bibliquement, concevable. Et alors, il arrive à la conclusion que ce qui manque de plus aux chrétiens, c'est la foi. Et priant le Seigneur, il demande au Seigneur, est-ce que je dois créer des orphelinats? Le Seigneur lui dit, non, c'est pas ta vocation. Ta vocation, c'est de fortifier la foi des chrétiens. C'est d'être un exemple vivant de ce que Dieu peut faire pour quelqu'un qui s'abandonne totalement à lui dans la foi. Et le meilleur moyen de montrer aux chrétiens ce qu'est la puissance de la foi, eh bien, c'est de créer un orphelinat, justement. C'est-à-dire que lui, il mettait la charrue avant les bœufs. Créer un orphelinat pour répondre à un besoin. Et le moyen, c'est la foi. Le Seigneur lui dit, non, c'est l'inverse. Le but, c'est la foi. Ta vocation, ce sera de vivre une vie de foi. Et ce que tu réaliseras par la foi ne sera qu'un moyen pour montrer aux autres ce que je peux faire avec quelqu'un qui marche véritablement par la foi. Et Georges Müller va recevoir cette interpellation, et ça va être effectivement l'axe de toute sa vie. L'année suivante, en 1875, sa femme tombe et est grièvement blessée dans un accident. Et c'est une grande épreuve pour lui, d'autant plus que le 7 juin, son beau-père meurt, et puis il perd son fils, son jeune fils, Élie, la même année. Donc il est frappé par trois grandes épreuves, n'est-ce pas ? Qui l'amènent à retarder ses plans, notamment en ce qui concerne les orphelinats. Mais Georges Müller ne se laisse pas abattre par l'épreuve. Il y voit aussi quelque chose que Dieu permet pour sa formation. Il considère que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le 21 avril, ou plutôt l'année suivante, en 1876, eh bien, il se met au travail. Il n'a pas un sou devant lui, bien sûr, pour créer cet orphelinat. Et son principe, c'est de ne pas demander un sou à qui que ce soit, seulement à Dieu. Et en même temps, d'honorer toutes les factures sur le champ, sans avoir de dette, comme j'ai dit tout à l'heure, envers qui que ce soit, ne serait-ce que d'un centime. Et alors là, il va mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, quand je t'ai prié dans ce sens-là, que tu as parlé de la foi, eh bien, voilà. Et par la foi, donc, il va louer un bâtiment qui va être au départ une école qui ouvre par la foi le 21 avril 1876. Dieu a merveilleusement pourvu. Et ce jour-là, il accueille 26 petites filles, 26 petites orphelines dans cette école. En octobre de la même année, il fait la même chose pour les garçons. Il ouvre une école de garçons. Et le 21 octobre 1837, il va ouvrir un orphelinat. la même année, pardon, c'est 1977, il tombe malade, parce que ça l'a beaucoup, beaucoup éprouvé, et il est obligé d'aller se reposer au bord de la mer quelque temps. Et de là, il part en Allemagne pour reprendre contact avec les siens, avec son milieu, etc. Il revient en mai pour reprendre ses activités à l'orphelinat. L'année suivante est une année extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que là, les dons vont arriver au compte-gouttes. Et c'est vraiment pour lui le temps le plus dur, n'est-ce pas, de son existence par la foi. C'est vraiment la vie de la foi. Souvent, il doit prendre des mesures d'urgence parce que dans cet orphelinat dont il est maintenant le responsable, il y vit, n'est-ce pas, avec sa femme, sa petite-fille. L'heure du repas arrive, il n'y a rien à manger. Rien à manger. Alors, souvent les employés sont là, mais il faut faire quelque chose. Et les enfants, ils vont sortir d'école tout à l'heure, à midi, ils auront faim. On peut peut-être faire une petite avance aujourd'hui. On va demander à Boulanger de nous faire une avance. Et puis, en disant que, Georges Buller, on se met à genoux, on prie. Et les enfants sortent de l'école, ils rentrent au réfectoire, la cloche sonne pour rentrer au réfectoire, ils se mettent autour de la table, il n'y a rien à manger. Et Georges Muller dit, maintenant, nous allons bénir Dieu pour le pain qu'il nous donne. Et il prie, il rend grâce, il n'a pas fini de dire amen, qu'on sonne à la porte. C'est le boulanger. Il dit, j'ai pensé que peut-être, en ce moment, comme les temps sont durs, vous auriez besoin d'un peu de pain, et puis voilà, il y a le pain pour les enfants. Quelques temps plus tard, la même situation se reproduit, et cette fois-ci, c'est un don en argent qui arrive une heure avant ou la veille, n'est-ce pas, qui permet justement d'acheter la nourriture pour le lendemain. Font les grandes rivières. Souvent, d'ailleurs, même ses collaborateurs aussi donnent ce qu'ils peuvent. Et arrive un moment où les membres de son orphelinat, les responsables, sont obligés de vendre aussi ce qu'ils ont pour continuer à nourrir des enfants. Georges Muller aussi se dépouille des maigres biens qu'il a, ceux de sa femme, etc., ce qu'il a pu hériter de droite et de gauche. Et même ainsi, arrive un temps où il est à l'extrémité. Il n'y a plus rien. Et là, c'est une grande épreuve. Et là, il est arrivé à un stade où il dit, Seigneur, je crois qu'on là, tant pis, on est obligé de fermer, on ne peut pas continuer. Et c'est alors que le Seigneur va intervenir d'une manière absolument remarquable, d'une manière absolument merveilleuse. Au moment où il est prêt à abandonner tout, n'est-ce pas, eh bien, il reçoit un gros don qui lui permet de redémarrer. Alors évidemment, il bénit Dieu, là, il voit la fidélité de Dieu et se rend compte que c'est vraiment le Seigneur qui l'a envoyé de cette manière-là. Et il peut dire, eh bien, pendant toute cette période difficile que nous avons traversée, les orphelins n'ont manqué de rien. À côté de ce travail qu'il fait dans cet orphelinat, bientôt il aura trois orphelinats, il va ouvrir deux autres, n'est-ce pas ? Il aura trois orphelinats qui vont fonctionner à Bristol dans toute cette période-là. Georges Muller s'occupe aussi donc de l'Assemblée de Bristol, l'Assemblée des Frères. Donc, des groupes de ce type-là, qui sont en principe des groupes indépendants, sont nés un petit peu partout en Angleterre. Et au bout d'un temps, ils entrent en contact les uns avec les autres et ils finissent par former une unité. Ça avait commencé en Irlande, on a vu ça la dernière fois, avec un certain Edward Carter, qui était un catholique converti. Et bien sûr, comme c'était un mouvement qui était en marge des églises, les autres églises les avaient plus ou moins excommuniés et refusaient de leur donner la scène. Il y avait un autre groupe qui s'était aussi créé, n'est-ce pas, qui est autour justement du beau-père de Georges Muller, nous l'avons vu tout à l'heure. Et c'était en 1816 que le groupe de Bristol avait commencé. Le beau-père de Georges Muller en était la cheville ouvrière. Lui aussi avait cru avoir, il avait pensé partir en mission en son temps, le beau-père de Georges Muller. Et il s'était lié au bout d'un temps avec un jeune théologien écossais qui se nommait Graves. qui lui était parti justement comme missionnaire indépendant à Bagdad en particulier, c'était en 1927. Et c'est là qu'il avait rencontré, au moment où il partait pour l'Irak, il avait rencontré Darby. Darby qui avait été consacré quelques années plus tôt comme prêtre anglican. Darby donc va intervenir dans le groupe de Graves. Lui-même est sorti de l'Église d'Angleterre. Il a été attiré par l'Église catholique, comme le sera son ami Newman. Ensuite, n'est-ce pas, il est parti à Genève, nous l'avons vu pendant un temps. Il a subi l'influence des milieux évangéliques, notamment il a eu contact avec César Malan, etc., quand il était à Genève. Et puis, donc, il va entrer en contact ensuite avec le groupe de Bristol. À Bristol, les affaires marchent fort parce que le témoignage de George Müller a défrayé la chronique dans toute la ville et Müller et Craig attirent des foules considérables, qui dépassent 1000 personnes qui viennent écouter le témoignage de George Müller, les expériences de foi qu'il a faites, etc., etc. Et sont très impressionnés, surtout le dimanche soir que ces grands rassemblements ont lieu. Finalement, le groupe qui était au départ un groupe de quelques personnes, qui maintenant regroupe des centaines et des centaines de personnes, les responsables se disent qu'ils peuvent plus être un groupe informel et que se pose la question des anciens. Est-ce que finalement, dans la vision nouvelle de Darby, l'église informelle, etc., enfin l'assemblée informelle, faut quand même un minimum de structure pour que ça marche, quoi. On a beau avoir des belles théories, on est quand même confronté avec les réalités rugueuses à étreindre. Bon, quand même, est-ce que la Bible parle d'anciens? Est-ce que dans le nouvel ordre des choses, la nouvelle dispensation, est-ce que des anciens est une chose possible? Alors, grosse discussion dans les groupes, n'est-ce pas? Des anciens oui, des anciens non. Puis un autre problème qui se pose, le problème des exclusions, de ceux qui se repentent. Est-ce qu'il faut être des professants? Est-ce que le problème du baptême des adultes se pose aussi? Nous avons vu Darby est contre, Georges Müller est pour, le baptême des adultes. Bon, finalement, Georges Müller et son ami Craig finissent par instaurer dans l'église de Bristol des anciens et des diacres. Ça plaît pas trop à Darby, première chose. Octobre de la même année, il décide de quitter Bristol et d'aller construire ailleurs parce que voilà ce qui s'est passé. Des voisins des orphelinats, enfin des bâtiments dans lesquels il avait recueilli ses orphelins, se plaignent de bruit, de nuisances, etc., qu'occasionnent les enfants, qui sont des inconvertis. Et c'est très excessif, c'est très démesuré. Et finalement, les collaborateurs de Müller lui disent que ces gens-là sont sans cœur, ils devraient accepter quelques petits inconvénients quand même, ils voient bien tout le bien qui est fait à ses enfants, tout ça. Mais Georges Müller dit non, moi je veux un témoignage impeccable, je ne veux pas qu'on puisse dire un mot contre nous, même si c'est des choses mineures. Alors il décide de trouver des locaux qui soient situés dans des endroits où ils ne nuiront à personne. Et c'est ainsi qu'il va créer un nouvel orphelinat pour 300 enfants. Ce qu'il veut avant tout, c'est l'honneur de Dieu. Il a la joie aussi de voir, au bout de ces années, sa fille Lydia, c'est pas sa seule fille qui lui reste, puisque son fils était mort, se convertir à l'âge de 14 ans. L'assemblée de Bristol a pris le nom de Assemblée de Bethesda, c'est le nom qu'ils se sont donné. Et cette même année arrive à Plymouth le frère du futur cardinal, qui se nomme aussi bien entendu Newman, et il est accompagné d'un ancien officier de l'armée qui est en retraite, qui se nomme Keel. Et là donc, ils prennent, là, en quelque sorte, la direction de l'Assemblée de Plymouth, parce qu'en principe, il n'y a pas de leader dans ces groupes-là, qui sont des groupes informels. Dans la réalité, il y a toujours quelqu'un qui prend la tête. Hein. Bon, à Bristol, on ne s'embarrassait pas de cette doctrine trop, n'est-ce pas ? Il était clair que c'était George Miller et son ami Craig qui étaient les responsables de l'Assemblée de Bristol. Ça ne posait pas de problème pour personne. Ça en posait pour Darby, par contre, n'est-ce pas ? Donc, le même problème se produit à Plymouth. Kiel et Newman prennent en quelque sorte, par la force des choses, par leur personnalité, par leur charisme, par le ministère qui est le leur, n'est-ce pas ? Parce qu'après tout, c'est des hommes de Dieu, et qu'on les reconnaisse ou non, ils ont le ministère. Ils prennent le leadership dans l'église de Plymouth. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a un troisième homme qui va les rejoindre, certain Newton, qui va se séparer de l'église officielle, et les trois hommes vont commencer une grande croisade à Plymouth, dans la ville de Plymouth, pour évangéliser. À cette époque-là, Darby revient de ses grandes tournées à l'étranger, en France, en Suisse, etc. Et donc, il revient en Angleterre, où il reprêche à nouveau sa doctrine à fond. Doctrine que, finalement, les frères ont plus ou moins mise de côté, n'est-ce pas ? À savoir que Dieu ne rétablit pas ce que l'homme a détruit, que l'Église a apostasié, que le péché a détruit l'unité du corps de Christ, et que il est vain de vouloir la reconstruire. Et après avoir prêché ça, et il va réinstaurer la Sainte Cène comme quelque chose de très fermé. Donc il reconstruit l'Église, en fin de compte, hein, quoi qu'il dise. Et les groupes qu'il crée sont des groupes d'où le méchant doit être absolument exclu. Il fait une espèce de discrimination très forte, bon, ce qui n'est d'ailleurs pas anti-biblique du tout, n'est-ce pas ? Mais il va aussi excommunier de la Sainte Cène tous ceux qui restent en contact avec une institution religieuse. Par conséquent, pour être membre de ces groupes, il n'y a pas de carte de membre, il n'y a pas on n'est officiellement pas membre. Mais finalement, l'autorisation à participer ou non à la Sainte Cène est une espèce de carte de membre. Et pour pouvoir être reçu à la Sainte Cène, il faut professer la sainte doctrine, avoir une vie sainte, tout à fait normale, et avoir rompu avec toute autre institution religieuse, quelle qu'elle soit, qui sont toutes apostates, qui sont toutes loin des voies de Dieu, en quelque sorte. Et c'est alors que Graves va s'opposer à lui sur ce sujet-là. Sur les deux premiers points, vie sainte, d'accord. Sainte doctrine, d'accord. Rapport avec les institutions religieuses, sous prétexte qu'elles sont apostates, non. Plus d'accord. Et donc là, le conflit va éclater. Alors, on discute, Bible en main, pour, contre, etc. Et d'une question disciplinaire, que c'est au départ, la querelle va devenir de plus en plus une affaire de doctrine. Et c'est en Suisse, n'est-ce pas, que l'on prend le parti de Darby à fond. Les assemblées de frères créées par Darby vont faire corps à fond derrière Darby pour la rupture avec tout ce qui n'est pas tout ce qui est religieux. Et puis, à Plymouth, non seulement il va y avoir ça, mais il va y avoir aussi des problèmes doctrinaux qui naissent, à partir justement de l'eschatologie notamment. Et une de ces questions, c'est celle qui ressurgit périodiquement dans les milieux évangéliques. L'enlèvement a-t-il lieu avant ou après la tribulation ? Bon. L'idée de la tribulation, c'est justement repris de Daniel 9, en particulier, les 70 semaines. Il y a les 69 premières semaines qui s'achèvent avec la crucifixion de Jésus. Et puis, entre la 69e et la 70e semaine, dit Darby, il y a ce qu'il appelle la parenthèse de l'Église. En même temps, ça montre quelle est sa doctrine de l'Église. Pour lui, l'Église, c'est rien qu'une parenthèse. C'est vraiment la relativisation totale de la notion d'Église. Et à la fin de cette période, Dieu referme la parenthèse de l'Église, c'est la dispensation de l'Église qui s'achève. Et à ce moment-là, le déroulement des temps prophétiques reprend, c'est-à-dire commence la 170e semaine. Et la 70e semaine de Daniel, c'est la période de la grande tribulation annoncée dans l'Apocalypse. C'est la période de l'Antichrist. L'Antichrist reparaît au début de la 70e semaine, après qu'Israël ait été rétabli dans son pays, et là, Darby a la vision du rétablissement d'Israël, intéressant, comme beaucoup d'autres d'ailleurs en son temps, n'est-ce pas ? Et donc, déferlement des persécutions, etc. Alors, Darby a enseigné que l'Église était enlevée au début de la tribulation. Alors, on commence à discuter, mais est-ce que l'Église ne serait pas enlevée au milieu de la tribulation, c'est-à-dire au bout des 3 ans et demi ? Ou est-ce qu'elle ne sera pas enlevée, finalement, même à la fin de la tribulation ? Alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, etc. Enfin, ça, vous voyez, ça commence à... Alors... Darby réaffirme Mordicus sa doctrine, c'est lui qui a raison, c'est les autres qui ont tort. Enfin, les autres soutiennent aussi leur point de vue. Alors, vous, c'est une querelle byzantine, cette affaire. C'est une querelle un peu comme sur le sexe des anges, parce que finalement, pour savoir à quel moment l'enlèvement va avoir lieu, d'ailleurs, la Bible nous dit que personne ne le sait. Première chose. S'ils avaient lu la Bible un peu plus près, hein, bon. Alors finalement, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Qu'on soit enlevé au début de la tribulation, au milieu de la tribulation, à la fin de la tribulation, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Doctrinalement, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Qu'est-ce que ça change ? Bon. Deuxièmement, est-ce qu'on est bien sûr que la tribulation va durer 7 ans ? Est-ce qu'on interprète bien la fameuse prophétie si obscure des semaines de Daniel ? Darby prétend en avoir découvert la clé. Ça reste à démontrer. Et finalement, ici, on est en train de se battre pour des questions qui n'en valent absolument pas la peine. Et les frères vont s'anathémiser, vont se déchirer, vont s'insulter, vont s'excommunier les uns les autres pour des questions de ce type-là. Voyez-vous ? Alors ça, c'est tragique. Ça, c'est dramatique. Et là, on va aboutir à une crise majeure, justement, à partir de ces choses-là, à partir des questions de discipline, et à partir des questions doctrinales, je mets doctrinales entre guillemets, parce que comme doctrine, c'est quand même pas, enfin vous voyez, le niveau, quoi. Mais finalement, c'est une mentalité, n'est-ce pas, de mesquinerie, qui va se distiller dans les milieux évangéliques, et ceci jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, dans certains milieux évangéliques, vous avez des gens qui sont capables de s'excommunier pour des questions de ce type-là encore. Alors que c'est des questions, finalement, sur lesquelles la Bible est très, très, très discrète. C'est qu'on ne peut pas être sûr. On peut avoir des opinions, on dit, bah, moi, je croirais plutôt que c'est avant la tribulation, moi, je croirais plutôt que c'est au milieu de la tribulation. Bon. Mais ce n'est pas des raisons pour s'excommunier. Pour eux, ça en a été. Voilà, si vous voulez, ça, ce sont les points négatifs, justement, de ces réveils qui ont eu lieu au siècle dernier. Alors, le meilleur et le pire, parce qu'on a de côté un Georges Müller qui vit une vie de foi exemplaire, hein, à vraiment, comme il y a peu dans l'histoire, et ça on verra là encore la prochaine fois quelques exemples de la vie de foi de Georges Müller. Et puis on a un Darby, n'est-ce pas, qui est un homme dur, cassant, borné doctrinalement, n'est-ce pas, et qui casse tout. Quoi. Alors ça, c'est le grand drame du monde évangélique, celui dont nous devons nous garder comme de la peste, et tirer les leçons de l'histoire, justement, de cette histoire pas toujours belle, pour dépasser, justement, ces choses-là. Voilà, si vous avez des questions à poser là-dessus. Je prends juste un crayon, merci.